L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Nous nous promenons aujourd'hui au cœur des étalages de la bibliothèque historique de la ville de Paris. La nuit est sur le point de tomber et le poète et bibliophile Pierre-Louis, comme à son habitude, fait du zèle. Assis au dernier bureau, encore occupé de l'espace de consultation, il feuillette des volumes pour le moins poussiéreux. Face à lui, deux ouvrages. D'un côté, Mélite, la première œuvre du gigantesque dramaturge Pierre Corneille. Ce travail a la particularité d'être une comédie. De l'autre, le bourgeois gentilhomme. De Molière, ce monstre de la comédie théâtrale à la française, considéré comme le meilleur auteur de son siècle. Mais quelque chose cloche. Pierre-Louis est persuadé d'avoir mis le doigt sur quelque chose d'explosif. C'est le moins que l'on puisse dire. Poète lui-même, romancier, journaliste également. L'homme de lettres, respecté de ses pairs, et, comme en transe, penché sur sa table de bois éclairée d'une faible lumière de fin de journée. Longtemps, il reste figé face à ce qu'il perçoit maintenant comme une évidence. Mais comment ne l'a-t-il pas vu plus tôt ? Enfin, c'est impossible. Il est devenu fou. D'une main hésitante, il se saisit du livre de Corneille et de l'autre. Il attrape celui de Molière. Mais non. Non, il a bien raison, c'est une certitude. Voilà que le gardien fait résonner sa grosse voix au travers des étalages pour lui dire de ranger ses affaires. Non, c'est pas très important. Il en reviendra demain. Le séisme qui renverse le cœur ne peut pas le tromper. Lui, l'étudiant des lettres, vient de déchiffrer un mystère inconnu depuis des siècles. Molière, acteur, chef de troupe de génie, n'a jamais été l'auteur de ces pièces connues du monde entier. Non. Sa plume est le plus sublime prête-nom d'entre tous. Elle s'appelle Pierre Corneille. Nous sommes le 2 octobre 1919, il est 22h15, et c'est leur H de mon histoire. Le musée Carnavalet, depuis déjà plus de 20 ans, abrite la plus historique des bibliothèques parisiennes, en plus de ses collections bien connues. Plus de 2500 peintures, 2000 sculptures, plusieurs centaines de milliers d'estampes et 100 000 bouquins, là, dans une des ailes de ce magnifique bâtiment dont la vue donne sur sa fameuse cour carrée. À l'origine, cet hôtel particulier du XVIe siècle appartenait au président du Parlement de Paris de l'époque. Mansart y a effectué des travaux. La marquise de Sévigny, plusieurs années durant, y a fait résonner son rire dans les couloirs avant que le baron Haussmann, le penseur du nouveau Paris, en devienne le propriétaire quelques années avant la chute de l'Empire de Napoléon III. L'histoire règne donc sur ce lieu, reconverti en musée à partir de 1880. C'est dans cette bâtisse des plus connues, près des quais de Seine, marchant sur les pavés avec ses chaussures en cuir noir, que s'avance Pierre-Louis quelques heures plus tôt. La journée est maussade, particulièrement. Le soleil, peut-être lassé de ce monde encore traumatisé par la Première Guerre mondiale qui ravagea la France durant les 4 dernières années, s'est caché derrière une couche de nuages impressionnante. Le poète originaire de Gand parle parfaitement le français et, en habitué des lieux, peut s'installer où il le souhaite, non sans avoir flatté le conservateur qui se trouve là. Une mèche tombe sur son sourcil gauche, d'un brun exquis doté de reflets roux qui se balade ici et là. L'artiste porte la moustache épaisse qui tombe de chaque côté avec un style en guidon. Très coquet, toujours en costume, l'homme de 49 ans porte aujourd'hui un ensemble et une cravate en soie fixée par une pince en argent. Une pluie fine se met soudain à tomber sur les pavés de la capitale juste avant que l'auteur ne se jette à l'intérieur du bâtiment. Ah, il a le sens du timing. Blague à part, sa mine aujourd'hui est grave. Depuis plusieurs semaines, il vient étudier en profondeur le style d'écriture de deux géants de la littérature en France. Pierre Corneille et Jean-Baptiste Poquelin à Camolière, le roi des dramaturges face à l'empereur des comédiens. Il semble que ces deux hommes, dont la grâce a un jour frappé le berceau, bénis des muses, n'ont rien en commun. Pire, l'histoire célèbre raconte que Molière et les frères Corneille se détestaient. Mais lui, Pierre-Louis, en sa qualité d'homme de lettres, se pose depuis un petit moment des questions. Et c'est ce soir-là, en étudiant pour la première fois le registre comique de Corneille, que tout lui saute aux yeux, comme une évidence. Le style d'écriture entre les deux artistes est particulièrement similaire lorsqu'ils rédigent des œuvres du même style. Depuis toujours, ils pensent que le fameux Tartuffe est composé des mots du grand Corneille. Cette opinion, qu'il a déjà partagée dans ses cercles les plus intimes, a fait frémir d'effroi ceux qui défendent l'art à la Molière. Le contre-courant, c'est ce qui pousse le poète à aller toujours plus loin dans l'affront. Mais cette fois, plus qu'une boutade, c'est avec certitude qu'il se forge son opinion. Les mêmes expressions de part et d'autre, les mêmes techniques de rebondissement, les mêmes traits pour des personnages qui se ressemblent et il en passe. Pierre-Louis, dont la sueur vient se loger près des tempes, est certain de son coup. Molière n'est en réalité qu'un chef-d'œuvre de Corneille. Vigoureusement chassé à la tombée de la nuit par le tonitruant gardien à la barbe aussi longue que celle de Zeus en haut de l'Olympe, Pierre-Louis rentre chez lui d'un pas vif et pressé, comme un enfant qui s'en va déballer un cadeau d'anniversaire. Son humeur est guillerette et il est saisi d'une excitation teintée d'appréhension. Cette découverte, c'est une bombe, ça, oui, mais plus encore. Cela signifie la remise en question de tout un répertoire considéré en France et dans le monde depuis des siècles comme un ensemble de trésors de la littérature. Il est tard, mais la concierge de son immeuble, elle, est encore debout et le tense lorsqu'il monte les escaliers avec fracas. Il ouvre sa porte en vitesse, les mains moites, des livres sous le bras. Il fait tomber son trousseau, le ramasse, se précipite à l'intérieur et claque avec vigueur la porte derrière lui. Nouveau cri de la vieille en bas qui certainement aura réveillé des voisins avec ses gênements plaintifs. Bon, peu importe. Pierre-Louis n'y prête guère attention. Toujours aussi rapidement, il s'installe à son bureau, fait grincer la chaise sur le parquet. Ses gestes saccadés accompagnent dans une danse endiablée ses sentiments et ses certitudes. D'un trait de plume, sans même avoir à réfléchir sur ce qu'il va écrire, le poète se met à coucher sur le papier ses impressions. Dans son esprit déjà, sa pensée est ordonnée. Ce n'est plus qu'un travail de retranscription qu'il est nécessaire de mettre en marche. Toute la nuit, alors que dehors la vie parisienne bat son plein et que les jeunes quittent les bars environnants, la pluie, elle, semble s'être installée dans le ciel parisien avec la constance des nuits maussades. Louis va gratter du papier, mettre en place des preuves, expliquer sous la forme d'un article comment Molière, finalement, n'est qu'une sorte d'imposteur. Génial chef de troupe et magnifique acteur, certes, oui, mais pas écrivain. Sans s'arrêter, se levant simplement pour faire bouillir de l'eau chaude pour son thé, Pierre-Louis, tel un joueur d'échecs professionnel, s'efforce d'anticiper les coups de ses adversaires. Il tente par avance de démonter les raisonnements qu'on pourrait lui opposer. La rédaction terminée, alors que l'aube se lève et qu'il est en bras de chemise, sa relecture est aussi impulsive que le reste. Il écrit de nouveau, change certaines formulations de phrases et, à l'heure à laquelle les oiseaux commencent à chanter au printemps, il glisse sa production finale sous pli. Henri Desgranges, le fondateur et propriétaire de la revue littéraire quotidienne Comédia, est l'un de ses soutiens les plus fidèles. Et l'auteur de La Bombe compte bien lui rendre l'appareil en lui proposant l'exclusivité de cette publication. Lorsqu'il la reçoit dans son beau et chic bureau parisien, Desgranges manque de tomber par terre. Il s'offusque des premières lignes. Comment Molière pourrait-il être un leurre ? Comment Corneille, mondialement connu pour ses qualités de dramaturge, aurait-il pu s'abaisser à écrire de la comédie pour un autre qui plus est ? Et puis finalement, L'argumentaire de Pierre-Louis, dès la première lecture, avait fait son effet. Desgranges s'engage dans une relecture, moins dans l'émotion, beaucoup plus dans l'étude de ce qui est avancé. Et lui-même surpris par cette conclusion, il finit par se poser des questions. Il n'est pas encore tout à fait convaincu, mais voilà tout de même que ses certitudes sont bien ébranlées. Bingo pour Pierre-Louis. Le directeur de revue accepte de publier son analyse. Ils ne savent pas encore, ni l'un ni l'autre, l'impact que cet article aura sur les courants de pensée du XXe siècle et au-delà. La poudrière sur laquelle ils sont assis, en tous les cas, n'a pas fini de détonner. Alors Molière, imposteur ? Et Corneille, petite main du comique ? Eh bien, accrochez-vous. Aujourd'hui, nous allons remettre en question vos certitudes les plus ancrées. Nous sommes au cœur de l'été 1658 à Rouen. Ville magnifique, puissante, redoutable. Deuxième locomotive du royaume, derrière l'intouchable Paris. La belle Rouennaise dévoile sa puissance et sa beauté à qui veut bien arpenter ses rues animées. Au détour d'un carrefour se rencontrent parfois les grands de ce monde. Pierre Corneille est un homme déjà âgé, véritable star de l'écriture, déjà à l'époque, dramaturge de génie s'il en est, l'auteur du Cid et de Nicomède, pour ne citer que deux de ses symphonies théâtrales, presse le pas. Son rhumatisme au genou droit le fait souffrir atrocement depuis quelques années. Mais aujourd'hui, un visiteur de marque l'attend dans son salon. Il a déjà été reçu par Thomas, son plus jeune frère, lui aussi amoureux de théâtre et d'écriture. C'est ce qui relie les trois hommes qui vont pour la première fois, lors de cette chaude fin de journée estivale, mettre en commun leurs idées et leurs projets. Pierre Corneille, toujours en train de grommeler après son genou rongé par l'arthrose, accélère le pas. Il n'est qu'à un petit pâté de maison. Encore quelques virages et la grande maison des artistes sera là, bien levée entre deux boutiques du centre-ville. Rouen est une ville particulièrement vivante. Sous Louis XIV, elle est un des moteurs principaux de la fusée France. Et si les Corneille n'ont pas encore eu l'idée d'aller tenter leur chance à Paris, c'est parce qu'ici, chez eux, ce sont de véritables rockstars d'un autre temps. Thomas est plus jeune que Pierre. La quête de la gloire qu'il n'a pas encore acquise, ça le titille. Plus que son très grand frère de plus de 15 ans son aîné. Plusieurs fois déjà, des discussions animées sur le sujet ont eu lieu et la voix forte et rauque de Pierre est toujours venue y mettre un terme. Pas question pour lui de quitter cet air si vivifiant grâce auquel il a écrit le Cid. Comme un vieux sorcier, Pierre Corneille est de ceux qui pensent que les environnements matériels peuvent être des catalyseurs d'énergie qui permettent les plus belles créations. Selon lui, il ne fait aucun doute que la maison familiale est un de ses lieux magiques. Son bureau, c'est sa caverne au trésor. Assurément, Thomas ne pense pas de la même manière. Et l'aîné finira peut-être un jour, qui sait, par céder pour permettre au cadet de construire sa propre carrière. La sienne est déjà faite, c'est une certitude. Ses œuvres sont déjà considérées parmi les plus magnifiques qui n'aient jamais été écrites. Il le sait. Joue parfois la carte de la fausse modestie, mais souvent gonfle la poitrine et assume son statut. Bon, après tout, il n'y a pas de quoi se cacher quand on est talentueux, non ? Alors qu'il est enfermé dans ses pensées, qu'il marche presque comme un robot, le dramaturge se rend compte qu'il est déjà arrivé au coin de sa rue. Il salue des voisins qui partent en direction du marché et continue son chemin. Il pousse la porte d'entrée, monte un petit escalier en colimaçon qui n'est en rien pratique pour son genou douloureux et se retrouve nez à nez avec le jeune homme venu lui rendre visite. Thomas est là aussi, mais tout l'espace semble occupé par le charisme d'un seul homme. Jean-Baptiste Poquelin, Molière. Il n'est pas le seul à être ému. Le génial chef de troupe qui vient de sillonner la province avec ses acteurs pour se faire connaître est sous le charme de cet homme tassé, dont la plume est on ne peut plus célèbre. Ils viennent de deux mondes différents, tous les trois. Déjà, la différence d'âge entre Molière et Pierre Corneille est des plus visibles. Poquelin n'est encore qu'un jeune homme de 16 ans plus jeune que le dramaturge. Thomas et lui, au fond, sont de la même génération. Les fenêtres sont ouvertes et les oiseaux chantent à l'extérieur. Les mouettes volent, se battent entre elles parfois. Leur cri caractéristique rappelle à tout le monde que la belle Rouen est une ville pour laquelle la mer est un élément central. Molière semble attirer à lui les rayons du soleil, comme déjà appelé par Louis XIV. Bientôt, il jouera devant le souverain pour la première fois. Mais en attendant, son charisme est absolument remarquable. Son talent en construction n'est pas encore reconnu à sa juste valeur. Il vient chercher conseil chez ses collègues. Il vient parler théâtre, ce qui, au fond, est le plus beau de leurs points communs. Très différent. Foncièrement aux antipodes, les trois hommes, durant des heures, vont rire et partager autour de leur expérience variée. Mais le détail de ce qui a pu se dire précisément appartient à l'histoire, à la légende. Pierre Corneille a-t-il proposé, séduit par le jeune homme, de lui écrire des textes afin de le faire monter en grade? Était-ce pour lui le moyen d'écrire de la comédie, genre qu'il adorait, mais très loin de la dramaturgie qu'il a fait exploser aux yeux du monde? Qui sait? En tous les cas, cette rencontre, la première d'une longue série, prouve assurément une chose. Corneille et Molière, bien loin des légendes véhiculées depuis des siècles, ne se détestaient pas. Le fait est qu'ils vont se brouiller parfois pour des broutilles, mais sans être amis, leur relation, elle, est basée sur un ciment plus fort encore, celui du respect. Dans cette affaire concernant la paternité des œuvres du grand Molière, ceux qui s'étouffent à l'annonce de la possibilité que Corneille ait pu écrire ses pièces brandissent en premier lieu l'argument indéniable pour eux, que les deux ne pouvaient pas se voir. Eh bien, c'est faux. De temps et d'espace, certes des plus éloignés, Molière étant un Parisien et les Corneille des provinciaux, d'âge et d'influence différentes, l'argument de la détestation est assez facile à brandir. C'est un fait. Pourtant, ils vont se rencontrer à de multiples reprises à compter de 1658, été durant lequel la troupe de Molière est stationnée à Rouen. Ces entrevues sont tellement prometteuses que Poquelin envisage une collaboration sur scène avec son aîné. D'ailleurs, la première représentation de Molière devant le Roi Soleil sera une pièce de Corneille, Nicomède, pour être précis. L'année suivante, en 1659, à Paris, la troupe de Poquelin va jouer non pas une, mais sept pièces successives écrites par Pierre Corneille. Cela s'explique par le fait que Molière, en tant qu'auteur, connaît des difficultés pour renouveler un répertoire à bout de souffle. Deux de ses initiatives personnelles cette année-là se prennent les pieds dans le tapis. Et qui, dans ses courriers personnels, défend le jeune chef de troupe? Je vous le donne en mille. Thomas Corneille. En 1662, les deux frangins font finalement le grand saut et s'installent dans la capitale. Dans le même temps, Molière connaît son premier très grand succès avec l'École des femmes. C'est de cette œuvre que sont nées les prétendues tensions entre les trois hommes. Un des personnages de la pièce fait référence, lors de l'une de ses interventions, au plus jeune des frères Corneille par quelques remarques satiriques. Ce « monsieur de Lille » qui est visé, c'est Thomas Corneille. Peu de doute. Pourtant, et assez justement, certains s'interrogent. Et si cette satire n'était finalement qu'une plaisanterie amicale? Chercher la polémique partout est peut-être une erreur après tout. D'autant que la collaboration entre les trois hommes, durant les 10 années suivantes, continuera sous des formes très diverses. La troupe de Molière, à plusieurs reprises, rejouera du Corneille. D'ailleurs, alors que Poquelin meurt prématurément en premier, nous allons y revenir, Pierre Corneille, âgé de 70 ans au moment des faits, décide d'écrire ses adieux à la scène. Ce sera la splendide Suréna, dans laquelle l'introspection de l'auteur sur lui-même est évidente, mais plus encore. Il évoque aussi les morts injustes qui ont pu l'entourer. Comment ne pas penser à son fils, soldat de l'armée du roi et qui va y mourir? Mais comment ne pas penser aussi, avec ce timing, à Molière lui-même ? Il vous faut une preuve supplémentaire pour vous convaincre que les hommes dont nous parlons ne se détestaient pas. Ok. En 1676, Molière est mort depuis 3 ans. Sa femme, qui suivit son mari dans toutes ses aventures, reprend le texte du Festin de Pierre, l'une des œuvres du défunt. Elle n'en est pas satisfaite et souhaite en faire une adaptation. À qui va-t-elle la demander ? Thomas Corneille, bien entendu. Comment, après tout ceci, continuer d'envisager que ces hommes de l'art ne pouvaient pas supporter ? Un conflit ou l'autre ne doit pas constituer la norme d'une généralisation de la détestation. Oh, ce serait cavalier. Plus encore, ce serait malhonnête. Vous allez donc me dire, puisqu'ils ont travaillé ensemble, aucun doute que Corneille aurait donc pu écrire les pièces de Molière. Peut-être. Mais vous remarquerez que j'emploie le conditionnel. Le mystère est opaque. Et si Pierre-Louis avait raison, accrochez-vous. Nous plongeons un peu plus au cœur de l'enquête.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, l'heure H nous plonge au cœur de la France de Louis XIV, celle des plus grands penseurs que le pays n'ait jamais porté. Au centre de ce tableau, Molière est considéré par de nombreux contemporains comme le plus grand des artistes de son temps. Mais une polémique, bien après sa mort, enfle et prend une épaisseur qui interroge. L'acteur et chef de troupe n'aurait pas écrit un seul de ses textes. Il serait l'œuvre de Pierre Corneille, extraordinaire dramaturge et auteur du Cid. Le mystère s'épaissit et la vérité, elle, est encore loin d'être au bout du chemin. Nous sommes le 17 février 1673, à Paris, au cœur d'un quartier bien connu de la capitale. La troupe de Molière s'apprête à conclure une de ses représentations les plus en vogue, celle du malade imaginaire, tout un symbole. Alors que dans le rôle d'Argan, Molière lance le ballet burlesque, partie incontournable de la fin de la pièce, mais il est terrassé par une énorme quinte de toux. C'est pas la première. Elles sont très régulières depuis quelque temps. Mais cette fois, le chef de troupe se met à cracher du sang. Beaucoup de sang. Il l'ignore, mais une toux trop appuyée vient de lui rompre une artère ou une veine. Il va mourir et déjà, la faucheuse est sur le pas de la porte. Il est évacué de la scène. Il est ramené chez lui, sa maison est tout près. Le tout jeune cinquantenaire peut marcher, mais l'effort demandé semble trop important. Dans les coulisses traîne une chaise à porteurs. Alors, c'est cet accessoire qui est choisi pour lui permettre de regagner son domicile sans accentuer les symptômes qui l'assaillent. Chez lui, il est installé dans un fauteuil. Oh, il est blême. Sa femme est là, son ami Lagrange aussi. Tous se pressent autour de lui. Armande, son épouse, comme toujours aux petits soins, propose à Molière un potage. Il y trempe ses lèvres, fait une grimace, rétorque à sa femme d'une voix faible qu'il préférerait avoir du parmesan. Le potage est trop corsé pour lui. Elle repart dans la cuisine quand le comédien, encore une fois, est pris d'une nouvelle quinte. En quelques secondes seulement, Molière est terrassé et part pour en aller sans retour dans les limbes. Il est mort à l'âge de 51 ans, sans un mot, dans une toux sanglante. Les Corneille, avertis du décès, comme les autres connaissances du génie, entrent dans une torpeur bien normale. Le théâtre perd l'un de ses meilleurs, si ce n'est le meilleur ambassadeur. Mais avec lui, meurt aussi son secret. Ses pièces ont-elles été écrites par le grand Corneille ? C'est du moins ce que certains pensent à la suite de la publication des articles de Pierre Louis en 1919. Mais le poète, rattrapé par le destin, est rappelé à son créateur en 1925. Impossible pour lui d'aller donc creuser la piste plus en avant. D'autres vont le faire à sa place et semer le doute dans tous les esprits. Tout comme Pierre Louys, deux auteurs particulièrement, Poulaille et Outers, pensent que Corneille est l'auteur des pièces de Molière. Plus encore, ils estiment que la rencontre entre les trois hommes en 1658 à Rouen fut le point décisif permettant la naissance d'un accord. Le premier gros succès de Poquelin, en effet, date de l'année suivante. Étrange, vous avez dit ? Peut-être. En tous les cas, il est tout de même troublant, c'est vrai, de voir que Molière transforme subitement et à 37 ans son style d'écriture du tout au tout, passant d'excellent acteur, mais malchanceux auteur, à bête de production capable d'enchaîner l'écriture de chefs-d'œuvre. Cela prouve-t-il pour autant qu'il n'a pas écrit ses pièces ? C'est pas certain. Mais comment expliquer que Corneille, qui n'est pas le plus humble des auteurs de son temps, c'est le moins qu'on puisse dire, aurait subitement accepté de devenir la plume cachée d'un autre ? Trois raisons sont avancées. Premièrement, l'appât du gain, dont il aurait eu visiblement bien besoin à l'époque des faits. Deuxièmement, reconnu pour ses tragédies, qui forment, sous Louis XIV, la quintessence des œuvres théâtrales, peut-être n'aurait-il pas voulu se rabaisser à rédiger publiquement des comédies. Enfin, le troisième argument avancé par ceux qui pensent que Corneille est le père des œuvres de Molière est le fait que les œuvres de Poquelin, qui sont pour le moins critiques contre la bonne société de Paris, aurait permis à Corneille de régler ses comptes en secret. Pour le moins pendant un temps artiste non désiré dans la capitale par une partie de la bourgeoisie. Quelle meilleure vengeance que celle de frapper sur ses ennemis de manière masquée. Jusqu'à la fin des années 1990, de nombreux auteurs se pencheront sur cette série d'indices pour conclure que Molière n'aurait été que le metteur en scène et l'interprète de pièces qui n'étaient donc pas les siennes. Mais pourquoi se dissimuler derrière Poquelin, alors que des collaborations entre les deux auteurs ont été faites, et ce de manière publique ? Comment expliquer les différences stylistiques de construction entre les deux ? Corneille, excellent dramaturge au demeurant, était-il aussi capable d'écrire avec autant de brio des comédies ? Molière, dans cette histoire, aurait-il réellement apprécié le fait de n'être qu'une vitrine jouant les textes d'un autre ? Fort heureusement pour la vérité, si difficile à discerner dans cette affaire, la science historique ne manque pas de ressources pour tenter de percer les mystères. La technologie et la pluridisciplinarité, elles aussi, vont faire leur entrée en scène. Comment, me direz-vous ? Grâce à des études statistiques d'ampleur menées à plusieurs reprises par des chercheurs venant d'horizons différents. La dernière en date, réalisée en 2019, va apporter des éléments de réponse tout à fait intéressants. La vérité, pour autant, sera-t-elle au bout du chemin ? Rien n'est moins sûr. L'histoire, après tout, n'est qu'un éternel recommencement. Qu'une immense balance, allant de gauche à droite et qui sans cesse évolue, bouge, forme des historiens habitués à dénicher de nouvelles preuves. La vérité d'un jour n'est pas celle de demain. C'est particulièrement vrai dans le cas de notre histoire d'aujourd'hui et dans la plupart de nos heures H.
L'heure H, Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, l'heure H se consacre à l'étude d'une des polémiques du monde littéraire les plus explosives du siècle dernier. La prétendue écriture des pièces de Molière par Pierre Corneille. La théorie, défendue en premier lieu dès la fin de la Première Guerre mondiale par le poète Pierre Louys, va trouver ses admirateurs et surtout ses détracteurs. Si bien que la vérité, elle aussi, va mettre du temps à se faufiler un chemin. Aujourd'hui encore, la question n'est pas tranchée. Elle agite particulièrement les débats entre artistes et historiens. Fort heureusement, le dénouement est proche. Une étude, très récemment, s'est fait la certitude d'avoir percé le mystère. Alors patience, nous touchons au but. Nous sommes en janvier 2022, dans un studio d'enregistrement parmi les plus connus de la région parisienne. Nous sommes en direct. En plein cœur de la nouvelle émission de Laurent Ruquier, on est en direct. Toujours friand d'émissions mettant en contradiction les avis le plus possible aux antipodes, il reçoit cette fois, aux côtés de Léa Salamé, l'historien Franck Ferrand et l'acteur Francis Huster. Les deux hommes sont là pour évoquer un sujet brûlant, la paternité des œuvres de Molière. Oh, rapidement, le ton est donné. Dans un costume bleu marine, assis dans un fauteuil bordeaux, les jambes croisées, le présentateur évoque une de ses rencontres avec Ferrand qui lui explique alors que Corneille a tout écrit de Molière. Et à Huster de répondre qu'il va casser la gueule du serviteur de Clio. Les expressions des uns et des autres sur le sujet sont particulièrement tendues. Franck Ferrand, excellent orateur, conférencier parmi les meilleurs, vulgarisateur de l'histoire comme on en a fait peu, se retrouve muselé par un Francis Huster prêt à lui sauter à la gorge. Le débat, animé, fait beaucoup rire Ruquier dont le rire reconnaissable entre mille résonne contre les parois du studio et Léa Salamé, elle aussi, essaie tant bien que mal de raccrocher les deux bouts afin que cette cacophonie hallucinante puisse ressembler à quelque chose. À chaque argument de l'un, l'autre répond par une remarque cinglante et les deux hommes face à face, qui finissent même par se lever, non pas pour en venir aux mains, mais pour espérer se faire entendre plus que l'autre, jamais n'arriveront à se mettre d'accord. Huster, face au placide Ferrand, rentre dans une rage décuplée, déclame des vers et des proses, explique que la tragédie de Corneille ne peut s'écrire comme la comédie de Molière, mais rien n'y fait. Ferrand, dans son costume et son col roulé impeccable, est certain de son coup. Molière, oui, est un magnifique chef de troupe et un acteur remarquable, capable de faire rire une salle entière avec seulement le jeu de ses sourcils, comme il le dit. Mais il n'a rien écrit. Absolument rien. Il reprend les arguments classiques de ses prédécesseurs qui croient, comme lui, à cette théorie. Le changement de style soudain d'écriture de Poquelin, les rencontres entre Molière et les frères Corneille, rajoutant par là même qu'il n'y a jamais eu aucune brouille entre les trois hommes. Leurs rencontres à Rouen, notamment, sont là pour l'attester. En réponse, Huster déclare « Je vais le tuer, je te jure, je vais le tuer ». Ambiance. Ce grand moment de télévision, qui dure près de 19 minutes, est un véritable match de tennis entre deux monstres de l'art oratoire, dans deux styles différents, l'un placide, l'autre dans l'émotion et le cri. Jamais les deux hommes ne pourront se mettre d'accord et à la fin de l'échange. Il en résulte que les spectateurs n'auront pas pu se faire un avis. Cela prouve sans aucun doute que très récemment encore, les érudits se déchirent sur cette question des plus tranchantes. Mais une étude, pourtant publiée en 2019, espère, elle, mettre enfin tout le monde d'accord. Et ses conclusions, vous allez le voir, sont particulièrement intéressantes. Florian Caffiero et Jean-Baptiste Camp sont des chercheurs du CNRS et de l'École des Chartes qui se sont penchés ensemble sur la question glissante de la paternité des œuvres de Molière. Ils en ont fait une thèse complète, argumentée, dont les conclusions sont sans appel. Corneille n'a pas, jamais, écrit une ligne de ce qu'a publié Molière. Leurs arguments, nombreux et variés, s'étalent sous plusieurs angles, en majorité grâce à des comparaisons stylistiques mises sous forme statistique. Tout un programme. Premièrement, les deux hommes ont utilisé ce que l'on appelle des techniques d'attribution d'autorité. Et là, vous allez me dire, qu'est-ce? Ce sont tout simplement des analyses complètes des styles d'écriture entre deux auteurs. On étudie les fréquences d'utilisation des mêmes mots, des mêmes expressions, des tournures de phrases et j'en passe et les meilleurs. Deuxièmement, ces données sont mises en forme et profondément étudiées afin d'en tirer des résultats probants. Et les deux chercheurs sont certains d'une chose. Tout, absolument tout, converge dans le même sens. Il est impossible que Corneille ait pu rédiger l'œuvre conséquente de Molière. Leur style et l'étude de leurs attributions d'autorité respectives sont sans appel. Elles sont très différentes. Oui, mais alors vous allez me dire, rien ne prouve que cette étude, plus que celle qui arrive à la conclusion inverse, soit plus fiable. Pour vous convaincre, ou non, je laisse la parole aux auteurs de cette étude pour répondre à cette question. Les méthodes de calcul pour identifier un auteur ont aujourd'hui beaucoup progressé. Un des changements majeurs vient de la manière dont on mesure la dissemblance entre les textes. On a longtemps utilisé des calculs adaptés au monde physique, comme la distance euclidienne. Mais les études de ces dernières années ont montré que cette analogie entre distance physique et distance entre textes est erronée et entraîne des biais importants. Nous utilisons donc des géométries non euclidiennes particulières dont on a pu prouver qu'elles étaient les plus adaptées pour des textes de cette langue et de cette longueur. Il semblerait donc que, sans ambiguïté, Molière soit bien l'extraordinaire auteur que l'on connaît. Tous ces personnages, toutes ces situations tantôt cocasses, tantôt burlesques, sont bien nées dans son esprit génial, doté d'un imaginaire particulier. Le XVIIe siècle a ceci d'exceptionnel. Il a vu naviguer dans les mêmes sphères d'immenses auteurs, de Corneille à Racine, en passant par Molière donc. Cet amalgame de génie, cet agglomérat de puissance littéraire et stylistique ont poussé de nombreux chercheurs et artistes postérieurs au siècle du Roi Soleil de se poser des questions sur l'existence ou non d'un échange de bons procédés entre ces immenses figures de la littérature en France. Quoi de plus normal après tout que de s'interroger sur les changements de style de cet homme ? Molière, si amoureux de la scène que la légende l'a fait mourir dessus. Quoi de plus naturel que de se demander si en un seul homme peut se tenir un acteur exceptionnel ? Un leader charismatique, chef d'une des plus grandes troupes du royaume et mieux encore, un auteur écorché vif, dont le burlesque est la parade pour se sortir de la torpeur. Jean-Baptiste Poquelin n'a jamais écrit ni joué sous son nom propre. C'est assurément pour une bonne raison et une partie du mystère peut-être se cache derrière ce personnage qu'il a créé. Cet alter ego n'est au fond que l'expression d'une autre partie de ce qu'il était. Derrière Jean-Baptiste Poquelin, vous trouverez l'homme, difficilement accessible. Derrière Molière se cache l'artiste, le personnage public, le fantasque et la bête de scène. D'autres avant lui et après lui ont également utilisé ce stratagème de prête-nom pour se constituer une carapace, une barrière qui leur ont permis à chaque fois de sublimer une partie d'eux-mêmes et de mieux pouvoir appréhender la réalité d'un monde pour lequel ils n'étaient pas programmés. Je vous propose aujourd'hui de nous quitter avec une anecdote qui concerne le héros de notre histoire. Nous sommes au palais de Versailles, dans les appartements du roi, et Boileau est avec lui. C'est son historiographe, l'un de ses plus proches collaborateurs. La nuit est prête à tomber et depuis longtemps déjà, le grand souverain règne sur la France. La fin du cycle est proche et depuis peu, le monde a basculé dans un nouveau siècle, le 18e. C'est alors que Louis XIV s'interroge. Nonchalamment, il demande à son historiographe qui est le plus grand auteur du siècle précédent. Sans hésiter, la réponse de Boileau ne se fait pas attendre. Molière, sire. Et vous voulez connaître la réponse du soleil ? Eh bien, la voici. Tiens, je ne l'aurais point cru. C'est pas si étonnant quand on connaît la pluralité des génies des mots du siècle de Louis XIV. Puis, si vous voulez mon avis, au-delà de la polémique sur la paternité de ses œuvres, ce qui fait de Molière un génie de la littérature est incontestablement le fait qu'il sera toujours resté un incompris aux yeux de son souverain. C'est aussi ça, au fond, la marque des plus grands. N'est-ce pas, Mozart ? Voilà pour ce récit captivant que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume de Valjean.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.